vivant dans nos mémoires.
À l'émission « Vivant dans nos mémoires », Yves Houd nous invite à la rencontre de deux historiens, Jacques Lacourcière, décédé en 2021 et interviewé en 2008. Et pour commencer, voici une entrevue réalisée en mars 2003 avec Michel Lessard, décédé en 2022.
Michel Lessard, bonjour.
Bonjour, Monsieur Houd.
Pour vous situer, pour les auditeurs et les auditrices, c'était vous qu'on doit l'encyclopédie de la Maison québécoise, objets anciens du Québec. Donc, vous connaissez bien ces objets et ces maisons anciennes. Mais pour vous, le patrimoine, c'est pas uniquement les vieilles pierres.
Hein? Non, le patrimoine d'une société, c'est ce que nous ont légué tout ce que nous ont légué nos prédécesseurs. Et ils nous en ont légué plein d'affaires. Ils nous ont légué un pays, un territoire, des espaces, un aménagement du territoire, des paysages, des lacs. Et bien sûr, tranquillement, ils ont aménagé ces espaces-là. Et ils les ont signés dans des villages, avec des places de villages, avec des églises. Puis dans les églises, un trésor. Finalement, c'est à coups de dizaines qu'ils ont rencontré les meilleurs artistes en bout de piste pour essayer de rencontrer la majesté de Dieu, parce que pour la majesté de Dieu, on devait avoir ou donner le maximum. Puis ça, c'était vrai jusqu'en 1930, 40, 50 dans la société québécoise. Alors donc, le patrimoine québécois, c'est aussi un patrimoine matériel, mais aussi un patrimoine immatériel. Il y a tout l'univers des contes et des légendes, des croyances, des dévotions, hein? Des croyances populaires. Il y a une femme à Saint-Gervais-de-Bellechasse, par exemple, qui ramasse à chaque année les eaux bénites, et qui identifie pour chaque eau, chaque année, des vertus pour chaque année, comme finalement pour le vin ou pour d'autres substances. Et pour multiplier son eau, on n'a qu'à rajouter de la nouvelle eau. Alors, elle en a toujours pour toutes les années, toutes les crues. Et si vous avez telle ou telle maladie, eh bien, elle peut vous servir un petit verre de cette eau-là, de cette année-là, qui a finalement telle vertu curative. Alors là, bien sûr, on est dans la culture populaire et il y a toutes sortes de choses dans la culture populaire. Ouais. Alors, c'est très vaste, le patrimoine.
Et vous dites que ces gens-là qui nous ont précédés ont signé d'une certaine façon des espaces, des édifices,
pays, etc.
Est-ce qu'on a toujours respecté ces signatures-là?
C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des gens, une église par exemple, c'est un monument ou un curé ou un président de conseil de fabrique peut intervenir à un moment donné pour essayer de moderniser certains éléments. Alors nos églises du 18e ou du 19e siècle ont souvent connu des modifications de l'ameublement, de l'aménagement intérieur, de la décoration, de la statuaire, du décor, et etc. Mais ça fait partie de la vie d'un bâtiment. Un bâtiment, c'est comme un être humain, finalement. Ça a une vie, ça connaît une naissance, ça connaît finalement une évolution, un cheminement, et ça connaît toujours une fin. Alors, quand vous promenez en Grèce ou dans la Rome ancienne, il y en a plein de ces œuvres-là, finalement, qui ont atteint leur fin. Alors, une église, un monument religieux, puisqu'on va parler surtout de patrimoine religieux, c'est quelque chose de bien vivant et qui subit comme tout vivant ou qui connaît comme tout vivant des mutations et des transformations.
Mais avant de parler de ce patrimoine religieux, j'aimerais qu'on aborde un tout petit point. Vous avez été à l'origine, vous avez créé le groupe JIRAM.
C'est ça.
Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, c'est un groupe qui est sur la rive sud de Québec, mais qui travaille aussi beaucoup dans la grande région de Québec. Donc, c'est le groupe d'initiative et de recherche appliquée au milieu. Nous avons 20 ans cette année. Ça regroupe une soixantaine de professionnels dans différentes disciplines. Et nous posons un regard critique sur les patrimoines naturels et culturels. Alors, on souhaite la protection des paysages, leur inventaire. On souhaite la conservation de biens patrimoniaux. Ça peut être des églises, des couvents, des maisons, des ensembles, un quartier, une vieille zone, etc. Et comme la plupart des gens qui font partie du JIRAM appartiennent au monde de l'enseignement, On est aussi un peu les gardiens des éthiques. Alors, lorsqu'on voit que le maire d'une municipalité ou des conseillers ou des promoteurs ou des développeurs ou des architectes ou des ingénieurs ne rencontrent pas finalement des règles éthiques en matière de construction, de développement et d'aménagement du territoire, eh bien, on intervient et on développe un dossier et on fait des recommandations pour redresser finalement en bout de piste le projet. Et depuis 20 ans, on a abordé à peu près 125 dossiers. Et je pense qu'on a changé beaucoup de choses dans la société de la région de Québec.
Quelques-unes de vos bonnes réussites?
Ben, imaginez, un jour, on voulait aménager au pied des plaines d'Abraham à Québec un terminal d'aluminerie pour l'aluminerie de Deschambault. Alors, on devait construire des élévateurs sur 8 étages de hauteur dans une zone extrêmement sensible sur le plan naturel, patrimonial et touristique. Vous savez que la première industrie à Québec, c'est le tourisme, 4,5 millions de visiteurs. Et on était au pied, finalement, des bâtiments de Mérissy, au pied des jardins de Québec, finalement, d'un milieu protégé. Alors, moi, j'étais en sabbatique cette année-là. J'ai pris 6 mois pour combattre ce projet-là, qui était, à mon point de vue, un bel élan de développement de la part du directeur du port de Québec. Mais c'est pas le port qui a une ville, c'est la ville qui a un port. Et on avait oublié ça et on les a rappelés à l'ordre. Et il y a comme ça, je pense par exemple au couvent de Saint-Charles de Bellechasse qu'on voulait démolir, ou encore le précieux saint à Lévis sur le cap de Lévis avec ses deux clochers qui est aujourd'hui un des plus magnifiques foyers pour personnes âgées. Alors on en a comme ça partout. Des éléments qu'on a protégés suite à nos interventions, les gens ont finalement compris et ils ont abondé dans le sens qui était le nôtre.
Et quand on dit que Jérôme ne fait pas dans la dentelle?
Ça veut dire que finalement, par moment, il faut être relativement sévère dans la critique. Mais je pense qu'on ne fait jamais d'action ad hominem. On ne vise pas les hommes, les individus, mais ce sont les projets que l'on critique puis on essaie de les redresser.
Avec l'historien Michel Lessard. Michel Lessard, cette semaine, c'était la réouverture de l'Anglicane à Lévis. Vous avez beaucoup travaillé sur ce dossier-là. Êtes-vous satisfait de ce que ça donne?
Écoutez, l'Anglicane, j'ai pas vraiment beaucoup travaillé, mais Luc Mercure, qui la dirige, est l'âme de ce projet-là. À Lévis, d'ailleurs, le travail de conservation patrimoniale est exemplaire à l'échelle du territoire national. Notre grande salle de spectacle de 250 places et dans une ancienne église anglicane. Notre belle bibliothèque municipale a été aménagée dans la chapelle du Collège de Lévis. Le précieux saint, finalement, qui était un monastère de moniales qui fabriquait des hosties sur le cap, juste là-bas, et maintenant un foyer pour personnes âgées. Nous avons un grand nombre de biens qui ont été recyclés de façon heureuse et qui servent finalement de nouvelles fonctions. L'Anglicane, bien sûr, c'est une création. L'architecte Ounganou, qui est un des meilleurs architectes du Québec, qui habite Montréal et qui a gagné le concours, a réussi à intégrer les fonctions et les nouveaux besoins dans cette œuvre qui date de 1851, le monument date de 1851, dans un parc très romantique. Bien sûr, on saute toujours un petit peu quand on voit, c'est pas une restauration comme on serait porté à le penser dans le cadre d'une conservation intégrale. On a gardé les murs de périmètre et le bâtiment est toujours là avec ses caractéristiques, ses aménités, le parc qui est tout autour, mais on l'a aménagé de manière à rencontrer de nouveaux besoins de société. Et on l'a fait finalement dans les élans de la modernité, du temps présent. Et le temps présent, ce sont de nouvelles valeurs esthétiques qui joue chez nous. On crée beaucoup depuis une vingtaine d'années de nouvelles salles de spectacle, des lieux, des centres de danse à Montréal. Il y en a eu quelques-uns qui ont poussé des lieux de théâtre aussi. Et bien sûr, on a développé pour le temps présent une manière, un style de faire les choses. Et Ounganou, finalement, s'inscrit dans cet élan de modernité. En fait, l'Anglicane à Lévis, c'est le premier élément véritable de modernité architecturale qui nous arrive à Lévis sur la rive sud. Alors, c'est un moment. Bien sûr, il faut pas juste regarder l'extérieur. Il faut entrer dans cet espace parce qu'une œuvre d'architecture, c'est une œuvre tridimensionnelle. C'est une sculpture dans l'espace qui sert des fonctions. Alors, il faut rentrer dedans et voir comment l'architecte a aménagé des places. Et il faut y aller au printemps puis à l'été quand les jardins seront en fleurs ou dans la période du vert tendre, là, en mai, pour voir à quel point c'est une grande réussite en termes d'aménagement.
Il reste que c'est un beau recyclage, si on veut, d'une église. C'était une église protestante. Et on se pose beaucoup la question, qu'est-ce qu'on va faire de nos églises catholiques en particulier, parce que on sait que de nombreuses églises sont appelées à être vendues, à être fermées, à être démolies même. Est-ce qu'on va toutes les transformer en condos? Est-ce qu'elles vont devenir, est-ce qu'il va y avoir assez de cirques pour en acheter, pour en faire des écoles de cirque? Est-ce qu'on va en démolir un grand nombre? Qu'est-ce qu'on va faire?
La question est bonne. Moi, je suis contre toute démolition d'église, là. C'est un principe, une règle. Parce qu'une église, finalement, c'est un espace culturel qui identifie un territoire, qui marque un territoire. C'est un édifice signal. Tout l'aménagement autour de l'église, dans une ville ou dans un village, le réseau de rues, de rues principales et de rues secondaires, s'explique, la trame urbaine s'explique par la présence de l'église. Nous sommes tous issus d'un personnage céleste quelconque qui s'appelle Saint quelque chose, puis au milieu du village de Saint quelque chose, il y a trônait finalement le temple et le lieu qui définissait au fond la communauté. Donc, moi, je veux qu'on les conserve tous. On peut pas imaginer, par exemple, démolir l'église de Saint-Charles de Bellechasse, de Beaumont, de Sainte-Marie de Beauce ou encore Notre-Dame de Lévis. La ville n'aurait plus de sens. La communauté n'aurait plus de sens. C'est des édifices signaux qui affirment une histoire. Ce sont des musées, en plus de ça, où nos prédécesseurs ont placé là leur trésor en bout de piste. Et ça signe le paysage et ça définit en bout de piste nos caractères culturels.
Michel Lessard, les églises que vous venez de mentionner, j'en conviens, et au risque de me faire tirer des pierres, mais Saint-Eugène, l'ancien Saint-Eugène de Villevanier ou Saint-Denis de la Bouteillerie sur la rue de l'église, est-ce que ce sont des temples qui ont la même valeur que ces grands temples de
village? Moi, je pense que dans les villes-centres ou dans des villes comme Lévis, par exemple, Lévis est une ville où il y a la nouvelle ville, une quinzaine d'églises, puis simplement dans le Vieux-Lévis, il y en a 4 ou 5, là, puis on pense déjà en fermer quelques-unes. Moi, je pense que on devrait conserver toutes les églises. Il y en a certaines qui devraient continuer, à cause de leur sens, à servir des fonctions de culte. Et comme, finalement, on n'a plus les moyens vraiment de les entretenir, parce que les fidèles ne se cotisent plus assez pour entretenir. Vous savez que le chauffage d'une église comme Notre-Dame de Lévis, quand il fait moins 20, est de 400 à 500 $ par jour. 400 à 500 $ par jour. Alors, il faut qu'on trouve des moyens de financer la conservation des églises et j'aimerais qu'on en discute un petit peu.
Michel Lessard, si on coûte 400 $ par jour les journées de grand froid à chauffer une église, et ça sans compter toute la détérioration, les avatars du temps, le bris de ci ou de ça, les transformations nécessaires à un moment donné, qui va pouvoir payer pour ça? Qui est capable de payer pour ça dans un temps où ces églises se vident?
Exact. Alors, je pense que, comme je viens de vous le dire, c'est des édifices de grand sens, c'est des édifices signaux qui annonce une communauté, ce sont des lieux d'art où on a mis tous nos trésors et ce sont aussi des lieux de mémoire parce que toute la vie de la communauté est passée par une église. Naissance, mariage, funérailles, tout est dans les registres. Finalement, toute l'histoire locale est dans l'église. Je pense que les gens tiennent à leur église. Personne ne veut voir démolir son église paroissiale, même dans les villes-centres. Par exemple, dans une paroisse de ville-centre, les gens veulent la conserver, mais on n'a pas les moyens de toutes les conserver.
On sait ce qui est arrivé à Notre-Dame-du-Chemin, par exemple, où des gens ont essayé de la conserver et on a fini par faire une série de petits condos.
OK. Il va falloir qu'on accepte que certaines églises subissent ce sort-là. On va garder finalement le bâtiment, mais parce qu'on ne peut pas toutes les conserver au niveau de la fonctionnalité, je vais y revenir dans quelques instants, il y en a qui vont devoir devenir des condominiums, puis peut-être des écoles du cirque, puis etc., etc. Ouais. Mais au moins, leur présence est là, comme le Parthénon est présent 2500 ans plus tard, comme le Colisée à Rome est présent 2000 ans plus tard, etc.
On n'a pas tenté de faire des condos dans le Parthénon. Il reste le Parthénon, il reste le temple qu'il était.
Oui, mais je peux vous dire, par exemple, que le théâtre de Marcellus à Rome, qui date de 2000 ans, il a été transformé en logement, en loggia, pour les Italiens qui l'ont réaménagé il y a déjà 1500 ans. Donc, il faut accepter que certaines églises connaissent ce sort-là. Je veux pas qu'on les démolisse, je veux qu'on les recycle. Attention, par exemple, celles qui vont devenir des condominiums, pour les gens qui auront à payer les frais de condo, quand il faudra refaire le toit d'une église dans 25 ans, il va être fini en tôle. Là, les frais de condo pourront être relativement lourds pour une année. Mais pour ce qui est des autres églises, de l'ensemble des églises du Québec, là, on a à peu près 2000 églises, mais mettons celles qui sont les éléments signaux dans chacun des villages, je pense qu'il faut les mettre sur le compte de taxes. Il faut accepter qu'on les municipalise, comme en France, finalement, qu'elles passent à la communauté, à l'administration de la communauté, puis que leur entretien, en bout de piste, apparaisse sur votre compte de taxes. Ça va augmenter vos taxes municipales de 3 à 4 %. Ça a été évalué par plein de monde. Mais comme elles deviennent des lieux communautaires, publics, payés par l'ensemble des citoyens, puis parmi les citoyens, il y a des croyants, mais il y a des incroyants, des agnostiques, des antiléricaux, etc., il va falloir qu'on accepte que ces lieux-là deviennent des lieux pour élever son âme, peu importe la dénomination religieuse à laquelle on appartient, d'une part, puis que ces lieux-là servent aussi des activités culturelles. Qu'elles servent des activités culturelles, puis des activités culturelles. Parce que finalement, c'est l'ensemble de la communauté qui paie. Mais on ne touche en rien. Alors, si vous avez le goût, finalement, de vous faire inhumer dans votre église, ben vous pourrez continuer à le faire, finalement. Si vous voulez le faire suivant un rite laïque, on n'a pas encore inventé des rites qui pourraient convenir à des personnes qui ne sont pas des croyants. On commence, par exemple, dans l'Église catholique, à faire des funérailles sans Eucharistie. Mm-hmm. Mais il faut qu'on aille plus loin. Là, les gens qui veulent saluer la naissance d'un enfant puis qui veulent pas passer par un baptême traditionnel ou qui veulent se marier ou pour les funérailles, ils sont obligés d'aller dans des lieux. Finalement, je pense par exemple aux gens qui se marient, qui passent par un petit hôtel de ville ou un palais de justice quétaine avec la cassette, puis etc. Il y a rien de plus triste que ça quand on sait que leurs prédécesseurs ont accumulé des trésors pour leur donner un lieu et un espace, si on veut, de santé intellectuelle et historique, et qu'ils le rejettent parce qu'ils veulent pas embarquer dans le rituel religieux. Alors, il va falloir qu'on s'invente un rituel pour introduire un enfant dans la vie, pour sceller finalement des alliances, puis pour accepter le départ de quelqu'un pour l'au-delà, mais sans que ça ait nécessairement de connotation à une dénomination religieuse en particulier. Puis nos églises devront continuer à jouer ce rôle-là, puis ce sont les plus beaux espaces pour se marier, pour ses funérailles ou encore pour célébrer l'arrivée d'un enfant. Ça, je suis convaincu de ça.
C'est vrai que ce sont de beaux espaces pour ça, mais est-ce que c'est parce que notre culture a été faite à travers ça qu'on n'arrive pas à s'en détacher? Il me semble qu'un mariage ou des funérailles qui ne passent pas par l'Église, on a de la misère à croire que ça
a du sens, que c'est vrai.
Est-ce que c'est notre culture ou si effectivement le lieu porte à ça?
Mais moi, je pense que les deux, notre histoire et notre culture expliquent ça. Puis le lieu aussi, disons que je suis un croyant moyen, alors je ne sais pas trop, je me questionne comme tout le monde, mais quand j'arrive à l'abbaye de Westminster, à Londres, puis que la chorale chante finalement une messe du 18e siècle, ou encore dans Notre-Dame de Paris, que tu sois croyant ou pas croyant, tu t'agenouilles, puis tu décolles avec finalement l'espace qui est là, les œuvres d'art, etc., etc.
Vous aimeriez pas voir tourner ça en condo?
Non, jamais, jamais. Puis je serais très triste de voir l'église de Saint-Charles-de-Bellechasse ou de Beaumont ou encore de Sainte-Famille de l'île d'Orléans devenir n'importe quoi. Pour moi, c'est des lieux d'histoire et des lieux d'élévation de l'âme, et l'être humain aura toujours besoin d'élever son âme. Élever son âme, ça peut être visiter un musée, mais ça peut être aussi s'asseoir dans une église et puis simplement penser à l'histoire et à tout ce qui s'est passé dans cette église-là, à la croyance, à la dévotion, à ce que ses prédécesseurs ont fait. Élever son âme, c'est ça, c'est décoller, finalement. D'ailleurs, les églises sont toutes faites pour décoller. Quand on passe du parvis de l'église à l'extérieur du monde profane pour entrer dans l'univers sacré, dans la nef, eh bien, on vient de changer d'univers. Puis quand il y a finalement chez les croyants l'élévation ou suivant un rituel particulier, le moment de la rencontre de Dieu lors de l'élévation du Sanctus, etc., il y a toujours un acte de triomphe dans le cœur. Et là, c'est une autre porte qui nous fait passer de l'univers sacré à l'univers céleste. Tout est une histoire de porte. Et une église, c'est toujours une antenne qui est pointée vers les forces cosmiques pour régénérer finalement les fidèles qui sont dans la nef. Alors, quand on se met à regarder un peu tout le sens, toute la signification de ça, c'est énorme ce que ça nous dit, une église, de nous, de ce que nous sommes comme êtres humains et de notre histoire et de notre culture aussi.
Michel Lessard, je lisais dans un article de la presse du 10 mars, donc c'est au début de la semaine, où on parlait justement de qu'est-ce que vont devenir nos églises à partir d'une expérience qui est en train de se faire à Montréal avec l'église Saint-Vincent-de-Paul, je crois, qu'on est en train de transformer en condo, et c'est une infrastructure qui coûte une fortune à transformer et les condos vont être extrêmement chers. Et on dit au printemps, la Fondation du patrimoine religieux, un organisme à but non lucratif financé par le ministère de la Culture et des Communications, entreprendra une vaste étude des 3000 lieux de culte du Québec. Objectif, déterminer la valeur patrimoniale et architecturale de chacune des églises afin de faire le tri entre celles qu'il faut conserver et celles dont il faudra éventuellement se départir.
Oui.
Il n'y a pas que les murs et les pierres de ces bâtiments-là qui font partie du patrimoine. Il y a tout un intérieur, il y a tout ce qui est sculpté, il y a toutes les boiseries, il y a tous les meubles, le mobilier.
Comme je l'ai dit tantôt, une église québécoise, c'est toujours un musée. Au fond, on a fait appel aux meilleurs artistes du temps, les architectes, les peintres, les sculpteurs, les ornementistes qui faisaient l'ornementation. On s'imagine pas, mais l'église Notre-Dame à Lévis ou Sainte-Famille de l'île d'Orléans, il y a, combien de rosettes sculptées en bois dans la voûte, puis chacune a été sculptée individuellement. Puis il y a les calices, les ciboires, alors l'orfèvrerie, les vêtements liturgiques, la broderie au fil d'or et au fil d'argent, les bannières de procession qui sont souvent des œuvres peintes puis aussi à fil d'or et d'argent. Alors, c'est extrêmement riche, finalement. Bien sûr, on ne pourra pas tout garder, il faut faire un tri. Mais au niveau des églises, je maintiens ce que j'ai dit tantôt, il faut toutes les conserver. Celles qui ne pourront plus servir le culte pourront, bien sûr, être transformées en lieu d'habitation. Mais encore une fois, attention aux coûts pour l'avenir. Mais il y en a d'autres qui peuvent connaître aussi d'autres fonctions. À Lévis, par exemple, la semaine passée ou il y a 15 jours, je disais que la Corporation du cimetière Notre-Dame à Lévis, qui gère 9 cimetières, demande un changement de charte pour pouvoir offrir tous les services funéraires dans des constructions qu'ils vont faire dans les beaux cimetières jardins de Lévis-Lauzon, là, qui sont en continuité. Mais à côté de ça, à un demi-kilomètre, il y a la belle église de Bienville, qui est un beau monument de la fin du 19e siècle, avec une mer d'asphalte en avant pour permettre les stationnements, mais avec une vue imprenable sur Québec, finalement, qu'on va abandonner bientôt, qu'on risque d'abandonner bientôt parce qu'il n'y a plus de gens, finalement, qui la fréquentent. Puis d'autre part, le chauffage est problématique, le toit fuit, et en bout de piste, il y a des problèmes de structure. Bon, elle s'écartèle un petit peu. Il faut, en tout cas, intervenir rapidement. Pourquoi pas utiliser cette église pour en faire un mausolée columbarium à un demi-kilomètre du cimetière et donc conserver un élément majeur de la trame historique. J'ai un ami, Fernand Roger, qui est un homme très aisé, qui a réussi dans la vie et qui développe depuis 2-3 ans un projet pour permettre la réutilisation en mausolée columbarium de plusieurs églises distribuées à travers le Québec, avec des meubles qui n'entament rien le bâtiment. Tout est amovible, tout est réversible, donc on ne touche en rien à la... Mais vous auriez autour de vous autres ou dans votre milieu, ou on aurait dans son milieu ses anciens, ses prédécesseurs, et vous-même éventuellement, finalement. Je pense qu'on n'a pas fait beaucoup de réflexions sur les usages possibles de nos églises. Puis il n'y a surtout pas de cohésion là, entre le milieu scolaire le milieu municipal puis le milieu des institutions. Ce monde-là ne se parle pas. À Lévis, je donne l'exemple de Lévis, mais c'est pour l'ensemble du territoire québécois, il y a plein d'institutions religieuses, il y a plein d'églises. La commission scolaire a besoin d'écoles, ils ont besoin d'un nouveau quartier général pour la commission scolaire proprement dite. Mais en même temps, il y a plein de communautés religieuses qui sont en train d'abandonner leur ministère. Et c'est des bâtiments du 19e siècle de très grande qualité et très importants sur le plan esthétique et de grand sens, finalement, et auxquels il va falloir trouver de nouvelles fonctions. Le monde ne se parle pas assez. Il n'y a pas assez de comités de planification et de réflexion qui mettraient toutes les forces vives d'une communauté locale pour essayer de voir un petit peu le problème qui va nous arriver dessus, là, en moins de 10 ans. Là. Ça va être terrible ce qu'on va devoir vivre en moins de 10 ans.
Si vous étiez sur le fameux comité qui doit juger des 3000 lieux de culte, quels critères auriez-vous, à qui vous donneriez préséance pour la conservation et les autres pour dire, ben, on pourra en faire d'autres choses?
Je pense que le premier critère qui joue, c'est le critère esthétique historique, la valeur esthétique d'un bâtiment. On est resté beaucoup collé à ça. Alors, il y a des grandes œuvres d'art parmi les églises anciennes qui dépassent les contingences religieuses. Ce sont des signatures de la création québécoise. Ce sont des œuvres qui appartiennent à l'ensemble de la communauté. Notre-Dame de Paris, à Paris, pour utiliser un monument connu, il appartient autant aux musulmans, aux gens d'Afrique du Nord là qui sont à Paris, qu'aux Chinois ou aux Japonais qui vont la visiter, etc. Ça appartient même au patrimoine universel. Ouais. Donc, on voit qu'il y a des biens qui appartiennent à l'ensemble de l'humanité. Il y en a d'autres à l'ensemble d'une collectivité. Bon. Il y a ensuite des lieux qui ont une grande valeur historique. Par exemple, l'église de Saint-Eustache, que les Anglais ont bombardé, puis on voit encore les morceaux, les éclats de pierre, puis les boulets de canon qui sont fichés dans la maçonnerie à l'extérieur, parce que c'est un événement majeur de notre histoire. C'est aussi des bâtiments qui méritent une conservation, qui méritent la conservation et la protection. Il y a aussi peut-être le fait que certaines églises ont développé un sens dans notre communauté parce qu'elles appartiennent à un lieu, je pense aux églises de l'île d'Orléans. Bon. Laquelle à l'île d'Orléans qu'on va démolir? Sainte-Famille, Saint-François, Saint-Jean, Saint-Laurent, Sainte-Pétronille, hein, laquelle? Aucune.
Est-ce qu'on va faire 5 salles de concert?
Non, mais finalement, je pense que si elles étaient sur la facture de taxes annuelles, on pourrait facilement, je pense, les entretenir. Ce ne serait pas si onéreux. Et comme l'île est un lieu de grand sens pour la communauté québécoise, pensez à la chanson de Félix, le Tour de l'île. Hein, quand finalement on part ça, ça nous touche l'âme finalement. Alors, toutes les collectivités mettent de l'argent. Et le gouvernement du Québec, là, il vient de mettre 90 millions. Et puis le fédéral en met aussi. Puis les municipalités vont devoir en mettre bientôt pour protéger finalement ces éléments de sens en bout de piste. Alors, je pense qu'il y a aussi la sensibilité locale. Il y a des gens dans chaque communauté locale, dans les communautés locales, qui sont peut-être plus sensibles au sens de leur église et qui sont prêts à intervenir et à le garder à leur église dans la trame historique puis dans la trame urbaine aussi.
Alors, Michel Essard, ce que je retiens de notre entretien, il ne faut pas démolir aucune des églises qui sont encore debout.
Aucune église.
On en a déjà trop démoli, il y en a trop qui ont brûlé.
Et je reste toujours prêt à débattre n'importe quand, n'importe où avec des démolisseurs d'églises.
Michel Essard, merci.
Bienvenue.
Nous poursuivons cette émission « Vivant dans nos mémoires » avec une entrevue que Yves Houde avait réalisée en 2008 avec l'historien Jacques Lacourcière, décédé en 2021.
Son projet était particulièrement ambitieux. Il est en passe de le terminer avec le 5e tome de son Histoire populaire du Québec 1960 à 1970. Les 4 premiers couvraient des origines, bien sûr, jusqu'à ce moment-là. Et celui-ci, contrairement aux autres, couvre qu'une décennie. Les autres couvraient des parties de temps beaucoup plus larges. Et on va tenter d'avoir des explications avec lui, Jacques Lacourcière. Lacourcière, bonjour.
Bonjour.
Jacques Lacourcière, cette histoire populaire, c'est le fruit d'un travail individuel de bien des années ou si c'est le résultat d'un travail d'équipe?
Ben, disons, c'est peut-être beaucoup plus les résultats d'un travail personnel parce que j'avais d'abord fait Nos Racines en 1979-1983.
La série de fascicules?
La série de fascicules. Disons que j'avais fait une recherche à ce moment-là, me servais beaucoup de des textes qui avaient été publiés là. Mais par contre, pour le cinquième tome, vous disiez en présentation que la période est beaucoup plus courte. Le précédent, le quatrième, c'est 1896 à 1960. Donc, ça faisait 44 ans.
Ouais.
Mais par contre, pour moi, la décennie 1960-1970 est tellement riche, il y a tellement d'évolutions, il y a tellement de changements.
Là, je vais vous corriger quand même en calcul mental rapide, là, 1896 à 1960...
Ah, c'est à 64 ans, excuse-moi!
80 de plus, là.
Bon, oui. Mais c'est moins passé de choses, je pense, pendant ces 64 années-là, que pendant la décennie 60-70.
On vous qualifie, Jacques Lacourcière, de à peu près le plus grand vulgarisateur qui puisse exister ces temps-ci, parmi les historiens. Est-ce que c'est un talent que vous avez toujours eu ou si vous l'avez appris par le fait de ce que vous avez voulu faire de
l'histoire? Ben, disons que quand j'étais plus jeune, j'ai voulu être romancier. Donc, j'avais à ce moment-là...
Vous avez une sœur qui prend la relève?
J'ai une sœur, Louise, qui a écrit trois romans sur Anne Stillman.
Ouais.
Elle a écrit récemment la biographie de Roland Leclerc. Je ne sais pas, vous avez dit le recevoir à
votre
micro.
Oui, elle est déjà venue.
C'est mon ancien étudiant, d'ailleurs.
Ah oui?
J'ai enseigné au séminaire de Trois-Rivières, ben oui.
Ah ben.
Et Louise, maintenant, là, oscille entre la biographie et vraiment le roman pur.
Ouais, ouais.
Mais par contre...
Mais vous avez pensé au roman, puis vous êtes venu à l'histoire.
Et après ça, c'est à l'École normale Maurice-Ève Duplessis. À ce moment-là, j'étais une vocation tardive, j'étais marié, j'avais un enfant. Et j'ai eu un professeur de psychologie et d'histoire. En psychologie, il était moyen, mais en histoire, il était très bon. C'était Denis Vaugeois, qui était plus jeune que moi, d'ailleurs. Et c'est avec Vaugeois que j'ai découvert une passion pour l'histoire. Et c'est en 1959-1960, et depuis ce temps-là, j'ai pas cessé d'en faire.
Quand vous... la première publication qu'on voit à votre nom, c'est le manuel scolaire 1968 pour enseigner l'histoire dans les écoles du Québec.
Oui, mais avant ça, on avait quand même fait le journal Boréal Express, de 1962 à peu près jusqu'aux années 72-73. Et là, on avait présenté l'histoire sous forme de journal. Donc, encore là, on avait développé une façon de présenter l'histoire qui n'était pas celle des manuels scolaires. C'était une façon beaucoup plus vivante, beaucoup plus journalistique. Et d'ailleurs, moi, j'ai l'impression d'avoir plus un style journalistique qu'un style d'historien très sérieux. D'ailleurs, je suis toujours très sérieux.
Vous êtes sérieux, quand même.
Mais vous remarquez qu'il n'y a pas de notes de bas de page.
Assez peu, c'est ce qui est agréable, d'ailleurs.
Ce qui est agréable, parce que moi, je pars toujours du principe que écrire un livre, même en histoire, c'est inviter quelqu'un à manger à sa table.
Mm-hmm.
Et si vous venez manger chez moi, je laisse pas traîner mes livres de cuisine. Mais si vous voulez avoir la recette, je vais vous la donner. Ouais. Si vous voulez avoir une référence à une citation que je donne ou une source, je vais vous la trouver, je vais vous la donner.
Vous faites allusion à l'École normale où vous avez eu comme prof Denis Vaugeois, oui. Ce qui veut donc dire que votre première partie de carrière a été celle de l'enseignement, j'imagine.
J'ai enseigné de 1960 à 1968, aussi bien au niveau primaire, après ça, au niveau collégial, et à la succursale de la faculté de commerce de l'Université Laval, à Trois-Rivières, au centre d'études universitaires, qui est l'ancêtre de fait de l'Université du Québec.
Okay.
Et en 68, je suis devenu responsable du dossier des sciences humaines en audiovisuel au ministère de l'Éducation pour à peu près tous les niveaux. Et en 78, comme on n'avait plus de budget de production, mais uniquement un budget d'administration, je me suis dit, d'administration, plusieurs peuvent faire ça, mais de la création, moins de personnes peuvent en faire. Et là, j'ai tout fait sauter.
Et pendant cette période-là, en dilettante, vous donniez dans la boîte à chansons?
Oui, parce que j'ai été président du Centre d'art de Trois-Rivières et on avait ce qu'on appelle le moulin à poche,
ouais.
Qui était sur le bord de la rivière Saint-Maurice. Et à ce moment-là, c'était l'âge d'or des boîtes de chansons. Et en 64, j'ai ouvert le moulin des poches.
Mais qu'est-ce que c'est qu'un moulin à poche? Il fabriquait des poches pour mettre de la farine et du sucre et des trucs comme ça?
Il fabriquait des poches à ce moment-là. C'était quand même, ça remontait fin 19e siècle, début 20e siècle.
D'accord.
C'était l'endroit idéal pour établir une boîte à chansons. J'ai eu Félix Leclerc qui est venu. Un folkloriste extrêmement important là, qui venait de Saint-Fabien-sur-Mer. Raoul Leroy, j'ai eu Hervé Brousseau,
Mais vous, vous...
Mais moi, je chantais pas. Non, une chance, ça aurait fait fuir les gens.
Vous administriez seulement.
Oui, oui.
Jacques Lacourcière, tout historien se veut objectif, bien sûr, à partir des documents qu'il a recueillis et dans l'exposition des faits. Mais l'objectivité, quand on commence à les interpréter, ces faits-là, l'objectivité a peut-être
Full
tendance
camp.
Un petit peu à...
Ben, oui, c'est-à-dire, moi, j'ai toujours dit que le fait que je sois né à Shawinigan dans une famille d'imprimeurs, que j'ai fait un cours classique, que j'étais de religion catholique, ça influence nécessairement ma façon de voir l'histoire. Parce que si j'étais né à Toronto, dans un WASP, donc dans une famille protestante riche, j'aurais pas la même vision de l'histoire que celle que j'ai aujourd'hui. Mais disons que moi, l'objectivité, je crois beaucoup plus à l'impartialité qu'à l'objectivité. L'objectivité, pour moi, en histoire, ce serait uniquement des dates. Et faudrait pas en sauter aucune. Mm-hmm. Parce que le propre de l'historien, c'est celui qui établit des liens ou des relations entre deux événements ou deux dates. Et il dit, bon, voici, ça a eu que ça comme conséquence. Mais ces liens-là, souvent, ce sont des visions de l'esprit, beaucoup plus que des visions réelles.
Oui, mais justement, quand vous arrivez à faire des liens comme historien à travers une série de faits, une série de documents, vous avez aussi toute liberté d'en négliger, d'en choisir.
Bien sûr.
Et là, ça peut biaiser.
Ça devient de l'interprétation historique.
Oui.
Mais comme...
Mais pour défendre une thèse, parfois.
Si
vous atténuez les documents qui vont à l'encontre de votre pensée...
Ben oui. Si je voulais montrer, par exemple, que dans la période précédente, que l'Église catholique a été vraiment brimante, que le clergé, comme on l'a dit dans la revue Life à la fin des années 1930, « A priest-ridden province », c'est une province gérée ou raidée, comme on disait à l'époque, par les curés, bon, je choisirais les fins en conséquence.
Ben oui.
Mais si, par exemple, je veux montrer que la première partie du Concile de Vatican II a été extrêmement importante et que ça a changé la mentalité au Québec, mais que, par contre, la décision de Paul VI d'interdire la pilule contraceptive, ça va faire en sorte que plusieurs femmes vont continuer à en prendre et, à ce moment-là, vont devenir beaucoup moins pratiquantes.
Mm-hmm.
Donc, le simple fait qu'on choisisse des événements ou qu'on choisisse un angle, ça va nous forcer à retenir dans le passé tel ou tel événement.
Outre le premier tome qui couvre presque 200 ans, en tout cas des
débuts
à 1791, ouais.
Oui.
Après ça, c'est une cinquantaine d'années, 60, 64, comme on l'a mentionné tantôt. Pourquoi la première partie, vous l'arrêtez en 1791, à la conquête?
À la conquête, c'est parce que pour moi, 1791, c'est une date extrêmement importante. C'est le moment où on obtient une chambre d'assemblée. C'est le début d'une certaine participation de personnes, hommes et femmes, à ce moment-là, faut pas l'oublier, en 1792, les femmes ont eu le droit de vote,
ah oui,
autant que les hommes.
Quand est-ce qu'on l'a enlevé?
On l'a enlevé en 1849, c'est-à-dire qu'en 1849, tous les gens de robe, c'est-à-dire les juges, les prêtres et les femmes, ont perdu le droit de vote. Ben oui. Mais ce qui est arrivé en 1791 au Parlement britannique, lorsqu'on étudie l'acte constitutionnel, les législateurs ne sont pas féministes pour un sou, ils sont pas pour la promotion de la femme, sauf qu'ils utilisent le mot « personne ». Or, les femmes ont dit, nous sommes des personnes, donc si nous avons les mêmes qualifications que les hommes, nous aurons les mêmes droits que les hommes, et nous avons les mêmes droits que les hommes. Et il va falloir attendre 1940, avec Adélaïde Godbout, pour que les femmes retrouvent leurs droits de vote.
Et comment on apprend des choses avec l'histoire. L'autre étape, ça a été 1841. Pourquoi vous arrêtez en 1841?
1841, c'est l'acte d'union. À ce moment-là, c'est une minorisation de la population francophone. Faut pas oublier que à la suite des événements de 1837-1838, lors de qui était venu ici faire une enquête, va suggérer l'union idiote du Bas-Canada et aussi une immigration massive. Donc, à ce moment-là, on passe vraiment, même si on est majoritaire, il y a à peu près 650 000 habitants dans le Bas-Canada, dont à peu près 150 000 anglophones. Dans le Haut-Canada, ils sont 450 000. On a le même nombre de députés. On va fusionner les dettes, alors que la dette du Bas-Canada, c'est seulement 96 000 livres, celle du Haut, 1 200 000 livres, ce qui fait que le Québec a financé le développement de l'Ontario. Et l'article 41 va dire qu'il y a une seule langue officielle dans les documents du gouvernement, c'est la langue anglaise. Donc, ça marque vraiment un changement de constitution important.
1896 pour la fin du tome 4.
Mais la fin 1896, ben c'est l'événement de Wilfrid Laurier. 1897, c'est le Parti libéral qui prend le pouvoir au Québec. Et à ce moment-là, il y a il y a eu le La révolte de Louis Riel, les deux, lui va être pendu en 85, mais ça marque vraiment un changement, parce que depuis 1867, il y a eu une intermède avec Alexander Mackenzie, un gouvernement libéral à la suite du scandale du Pacifique, mais ce sera presque uniquement les conservateurs qui vont diriger le Canada, et au Québec, on aura la plupart du temps des gouvernements conservateurs, mais arrive 1896-1897, et à ce moment-là, on a vraiment un changement, et on entre dans le 20e siècle. Et pour moi, le 20e siècle commence au fédéral en 96 et au Québec en 97.
Quand vous entreprenez le cinquième tome, 1960-1970, Ça va dans l'esprit de tout le monde que 1960, c'est le début de la Révolution tranquille.
Ou c'est la fin de la Révolution tranquille.
Ben, c'est ça la question que je voulais vous poser. Vous l'avez fait commencer un peu dans là où les gens ont tendance à croire que oui. La bascule s'est faite.
Mais tout
est... 1960, c'est un peu un résultat. Est-ce que c'est plus un résultat qu'un début?
Ben, c'est un début et un résultat en même temps. C'est-à-dire que tout avait été préparé pour que le Québec connaisse des changements extrêmement rapidement, comme bon nombre de pays à ce moment-là. Faut pas oublier que les années 1960, la décennie 60, c'est la décennie où il y a des dizaines et des dizaines de pays qui sont créés, et il y a un chambardement dans le monde. Il y a aussi, par exemple, dans le domaine religieux, tout le problème de la baisse de la pratique religieuse. Il y a les mouvements de contestation. On se rappelle bien de mai 68 à Paris, mais faut pas oublier qu'à l'automne 68, dans nos cégeps, il y a du grabuge. Mm-hmm. Il y a la violence qui éclate un peu partout. Et nous, on va connaître notre violence aussi avec le Front de libération du Québec à partir de 1962-1963.
On sait qu'aux États-Unis, Berkeley, puis les mouvements de contestation étaient aussi présents du côté des États-Unis. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être presque internationales à ce moment-là.
On vit au même rythme que le monde occidental.
Oui, mais on y est arrivé sans l'avoir vu venir.
Ben, on l'avait vu venir. Ben, si on retourne, par exemple, à la période 1939-1944 avec Adélard Godbout, ben, les femmes retrouvent leur droit de vote. En 1943, l'instruction devient obligatoire au Québec. On est la dernière province. Terre-Neuve n'est pas rentrée encore. On devient la dernière province à rendre l'instruction obligatoire. C'est la création de Hydro-Québec en 1944. C'est la publication du premier code de travail en 44. Et il y a les retours des soldats, ceux qui sont allés se battre sur les champs de bataille européens, asiatiques ou africains, ben, reviennent ici avec des idées qu'ils n'avaient pas au point de départ. Et il y a aussi en 1960 une petite revue qui aura une influence quand même assez importante, qui est Cité libre, avec Pierre-Éliott Trudeau, avec Jean Marchand, puis avec Réginald Martel, entre autres.
Pelletier aussi.
Et ces gens, cette revue-là va avoir une certaine influence. Et il y a en 1952 l'avènement de la télévision.
Oui, mais beaucoup de choses que vous avez mentionnées sous Adélard Godbout.
Oui.
Qui arrive le droit
de... Pour moi, c'est la pré-révolution tranquille.
C'est la pré-révolution tranquille. Mais est-ce que l'avenue de l'Union nationale et de Duplessis, on a remis le couvercle là-dessus parce que on voulait
en
pas que...
En partie, oui. C'est-à-dire que certains me disent, oh, ben, tu veux réhabiliter Duplessis. Non. Je veux quand même nuancer le jugement.
Vous avez toutes les raisons pour avoir étudié à l'école normale.
Maurice Duplessis. Bon, on ne reviendra pas trop sur ça, mais quand même, chez Duplessis, il y a quand même, par exemple, son attitude face aux témoins de Jéhovah, son attitude face aux chefs syndicaux. Il va adopter des lois rétroactives pour les chefs syndicaux. Il y a une censure qui est quand même assez importante qui est établie dans le domaine du cinéma. Mais par contre, il va créer l'impôt provincial. Et il va quand même construire beaucoup d'écoles sans nécessairement se préoccuper
de l'éducation.
De l'éducation. Donc,
il s'occupait d'élections. Des écoles, c'était payant au niveau électoral.
Oui, monsieur. Et à ce moment-là, lui, il disait, vous savez, faites-en des promesses. On retient plus. Ouais. Une fois qu'on est élu, les gens oublient les promesses.
Ouais. Mais quand même, je reviens, est-ce qu'on n'était pas sur une lancée avec le gouvernement Godbout que Duplessis a freiné?
Il a freiné dans un certain sens, mais ça n'a pas empêché ce qu'il y avait dans la marmite de continuer à bouillonner. Et quand arrive 1959, quand Duplessis meurt, en 58, quand les abbés Dion-O'Neill dénoncent la corruption électorale, certains historiens affirment que en 60, si Duplessis avait été encore vivant, peut-être qu'il aurait perdu ses élections.
Et si en 60, Paul Sauvé avait été encore vivant? Et pour moi, vous aurait-il gagné sur Jean Lesage? Parce que l'élection s'est gagnée avec une assez faible majorité.
Une très faible majorité. Bon, parce que c'était Barrette qui va prendre la succession. Mais pour moi, Paul Sauvé a fait naître tellement d'espoir qu'il avait quand même amorcé une ouverture qu'on n'avait pas à l'époque de Maurice Duplessis. Et si Sauvé n'était pas décédé, pour moi, il aurait remporté les élections.
Oui, c'est Barrette qui a été plus sombre personnage. Pourquoi on avait choisi
Mais d'ailleurs, à la même époque, les gens disaient, avec Barrette, on n'est pas sauvé.
En effet. Pourquoi le parti avait choisi Barrette à cette époque-là sur Daniel Johnson?
Ben, Daniel Johnson, il était trop Danny Boy à ce moment-là. Faut pas oublier que Daniel Johnson va changer par après, mais en 1960, Danny Boy, c'est-à-dire que Daniel Johnson n'était peut-être pas trop recommandable. Et c'est pour ça qu'il y a eu un genre de compromis, et c'est Antonio Barrette, le premier ministre à la boîte à lunch, qui a pris la direction.
En effet. Le Québec va s'ouvrir en 1960 sur beaucoup de choses, et dans votre livre, vous le montrez bien, et les changements viennent de partout. Il va s'ouvrir un peu il va s'ouvrir à l'international, mais encore là, c'est des choses qui avaient été préparées.
Ben oui, qui avaient été préparées auparavant.
Auparavant, c'est Jean Lesage qui en a les bénéfices, mais...
Il y en a tous les bénéfices, mais moi, je suis de plus en plus critique face à Jean Lesage. Bon, faut pas oublier qu'en 1960, c'est l'équipe du tonnerre. Mm-hmm. En 62, on va avoir Maître chez nous, mais en 66, c'est Laissons Lesage continuer son œuvre. À ce moment-là, il est complètement isolé, parce que Lesage était pas très en faveur de la nationalisation de l'électricité en 62, et il est pas chaud du tout pour un ministère de l'Éducation, et il y a quand même, à ce moment-là, des tensions de plus en plus fortes entre lui, René Lévesque, et Paul Gérin-Lajoie, de sorte que Jean Lesage est de plus en plus isolé, et ça explique peut-être en 1966, sa défaite aux mains de Daniel Johnson père.
Oui, mais quand il est arrivé, Jean Lesage, c'est le sauveur, c'est pas la première fois qu'on faisait ça, ou c'est pas la dernière surtout qu'on l'a fait, c'est le sauveur venu d'Ottawa?
Oui, c'est le sauveur, et c'est le père Jean-Henri Lévesque qui est allé chercher.
En plus?
D'après ce que lui m'a dit, ouais. C'est moi qui est allé chercher. Parce que quand il était ministre à Ottawa, Jean Lesage a pas fait fureur, hein. Ça a pas été une étoile de première grandeur. Mais par contre, en 59, quand il devient chef du Parti libéral du Québec, ben à ce moment-là, c'est quelqu'un qui arrive avec l'auréole du fédéral, qui arrive à une époque où le Parti libéral, hélas, aurait dû choisir Georges-Émile Lapagne. Georges-Émile Lapagne était à ce moment-là donc le chef du parti, un chef peut-être un peu grognon. Mais c'est quand même Georges-Émile Lapagne qui va penser la Révolution tranquille. Tout ce qu'on va retrouver par après, mettons, dans le programme électoral du Parti libéral en 1960, c'est Georges-Émile Lapalme qui l'avait écrit, c'est Georges-Émile Lapalme qui l'avait pensé.
Pourquoi Georges-Émile Lapalme est-il demeuré toujours une figure aussi effacée du temps qui était chef de l'opposition? Est-ce que Duplessis était trop fort pour lui?
Duplessis était très fort pour lui, et Georges-Émile Lapalme faisait plus figure d'intellectuel avec ses lunettes parce que Duplessis avait un sens de l'ironie qui était très très fort. Et à ce moment-là, le Parti libéral du Québec était en restructuration. Mais quand arrive Jean Lesage n'aimera pas beaucoup Georges-Émile Lapalme, et il va un peu le mettre de côté. Il va quand même le nommer ministre des Affaires culturelles. Mais Lapalme, si on lit par exemple Le vent de l'oubli dans ses mémoires, il y a pas mal d'agressivité face à Jean Lesage.
Ouais. Vous mentionnez que Lesage le nomme ministre des Affaires culturelles, mais il a fallu créer le ministère.
Et cette création-là, on la doit à Georges-Émile Lapalme. C'était son idée à lui.
Et curieusement, le programme électoral de Jean Lesage, 1960, est beaucoup axé sur la culture et l'éducation.
Ben oui, c'est à cause de l'influence de Georges-Émile Lapalme, mm-hmm. qui était le penseur du programme.
On aurait pu croire qu'il arrive avec des propositions plus économiques, et c'est...
L'économie, pour moi, va apparaître peut-être un peu plus, surtout quand René Lévesque va entrer dans le paysage. Comme ministre des Richesses mm-hmm. naturelles, et que il va préconiser qu'on nationalise des compagnies d'électricité, entre autres la Shawinigan Water and Power.
Les années... dites-moi donc, parce que vous venez de Shawinigan, là, comment c'était reçu quand ils ont commencé à parler de nationaliser à Shawinigan? Comment est-ce qu'on réagissait?
Ben, à Shawinigan, on avait l'impression qu'on perdait peut-être quelque chose. Mais là, il y a toute l'opposition entre Trois-Rivières et Shawinigan. Les nationalistes, les sociétés Saint-Jean-Baptiste, entre autres, qui, elles, sont en faveur de la nationalisation parce qu'on s'est dit, on va enfin prouver que les Canadiens français ont le sens des affaires, qu'on peut être maître chez nous. Et à partir de ce moment-là, ça a changé quand même le paysage. Mais à Shawinigan, on n'était pas tellement chaud parce que c'était un peu une ville fermée. La Shawinigan Water and Power, ben il y avait le parc, il y avait le boulevard Saint-Maurice, il y avait beaucoup de choses que la Shawinigan avait établies. Et d'ailleurs, quand Hydro-Québec va prendre possession de la compagnie, à ce moment-là, Shawinigan va perdre, d'abord, va perdre énormément de taxes. Mm-hmm. Parce que la ville de Shawinigan retirait beaucoup de taxes.
Vivait de ça, oui.
Vivait en bonne partie de ça, oui. Shawinigan, dans les années 50, on l'appelait la Ville-Lumière, le petit Paris d'Amérique du Nord. Par après, les lumières vont baisser.
Ouais. Vous dites, vous en faites même un chapitre, que dans ces années-là, l'État québécois s'affirme par rapport à Ottawa. Mais
oui.
Une affirmation qui était quand même commencée avant.
Ça avait commencé avec Duplessis.
Même sur Duplessis.
Oui. C'est même sur Duplessis.
Qu'est-ce qu'il y a de plus, là?
Qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est qu'à ce moment-là, on s'affirme dans divers domaines et on veut, par exemple, contrôler beaucoup plus les finances parce qu'on se rend compte que le nerf de la guerre, c'est certainement les finances. Et on va durcir ces demandes face à Ottawa. Il y avait eu, par exemple, on va débloquer le financement des universités. Ça avait commencé quand même un peu, très, très peu, avec Paul Sauvé, mais passablement avec Barrette. Mais ça va sortir complètement avec Jean Lesage. Il y a l'affirmation à peu près au niveau... Faut pas oublier que il y a la naissance des mouvements indépendantistes. Hein. On en a un premier en 57 qui, lui, est peut-être plus de droite. Après ça, le Rassemblement pour l'indépendance nationale en 61. Lui, qui est peut-être beaucoup plus de gauche ou de centre-gauche. Et le fait que le gouvernement de Jean Lesage veut un peu enlever des revendications du RIN pour les prendre à son compte. Ben là disons qu'on va forcer le gouvernement Lesage, avec René Lévesque entre autres, à devenir beaucoup plus exigeant face au gouvernement fédéral. Et on va vraiment s'affirmer à ce moment-là. Faut pas oublier que c'est un on a des Fennbakers. Il y a un paquet de problèmes à Ottawa. Et le Québec veut, par exemple, sur la question de la culture, devenir de plus en plus présent, même si le père Jean-Jacques Lévesque, la collection l'évêque Massé, avait dit que au niveau universitaire, c'était plus de l'instruction ni de l'éducation, mais c'était de la culture, et que le fédéral devait s'occuper de culture.
Mais on va aussi vouloir... l'immigration va jouer également dans les
On va commencer à s'intéresser plus à l'immigration. Et on va... c'est seulement en 68 qu'on va avoir vraiment... pas un ministère, mais disons, une organisation beaucoup mieux structurée face à l'immigration.
On a mentionné, Jacques Lacourcière, comment le mouvement de chambardement, le grand vent de changement soufflait un peu sur le monde, mais les influences que ces mouvements-là ont eues sur le Québec dans cette période-là. On arrive avec, si on regarde du point de vue de l'Église, c'est Vatican II qui va arriver, c'est le pape Jean XXIII. C'est Jean XXIII. Ça a eu une grande influence sur le Québec?
Ça a eu une grande influence. D'ailleurs, ça avait commencé auparavant avec le cardinal Léger. Bon, déjà en 1960, le cardinal Léger autorise ses prêtres à revêtir l'habit laïque. Il y a à ce moment-là toute une série de mesures qui montrent que on veut moderniser l'Église, mais ça va être avec Vatican II vraiment que il va y avoir des mesures, entre autres la messe en langue vernaculaire. Beaucoup à ce moment-là, mais ça va coïncider avec une remise en question de la part des prêtres, des religieux et des religieuses, de leur place dans l'Église et de l'œuvre, des œuvres qu'ils doivent faire. Et ça coïncide aussi à ce moment-là. Mais ça, ça avait été préparé. Hein. Il y a des études qui démontrent qu'à partir des années 1955, déjà la pratique religieuse était beaucoup moins importante qu'auparavant. Il y avait moins de personnes qui recevaient les sacrements, ainsi de suite. Donc, il y a d'une part... Une résurrection dans l'Église catholique, une résurrection que Paul VI va peut-être bloquer en bonne partie. On dit que Jean XXIII est peut-être mort trop vite. Ouais. Que si Jean XXIII était demeuré plus longtemps, ça a peut-être pu changer l'avenir de l'Église un peu partout.
Jean XXIII n'avait pas la prudence de Paul VI, peut-être.
Non, non. Il avait...
L'audace.
L'audace et une foi qui dépassait la foi normale.
Du côté de ces influences de l'extérieur, John Kennedy, l'arrivée de Kennedy aux États-Unis.
Oui, Et il faut pas oublier qu'à ce moment-là, il va y avoir un genre de durcissement aussi avec la Russie. Il faut pas oublier que c'est la guerre froide, 61-63. L'assassinat de Kennedy va être perçu ici. Et Kennedy va influencer certains de nos hommes politiques qui vont vouloir le suivre au niveau des manières. Mais on aura... peut-être plus important que Kennedy, en 1967, le 24 juillet, le général de Gaulle.
Oui.
Et on publie un texte de l'ambassadeur Dorin qui montre que la fameuse petite phrase « Vive le Québec libre », c'était vraiment prémédité.
Ah, c'est pas spontanéité.
C'est pas spontané du tout. C'était vraiment quelque chose de calculé. Et ça, ce qui est important, c'est que ça va briser le Parti libéral. On aura François Aquin qui rapidement va démissionner du Parti libéral, va donner le premier député indépendantiste. On a René Lévesque qui va quitter à l'automne 67, qui va mettre sur pied le mouvement Souveraineté Association. L'année suivante, c'est la fondation du Parti québécois. Donc, il y a des changements extrêmement rapides à ce moment-là, aussi bien dans la vie culturelle, dans la vie politique que dans la vie religieuse.
Ces changements-là que dont vous venez de parler se font pendant que le Parti libéral est dans l'opposition.
Oui.
C'est une situation qui aide un peu les bouleversements, comme ça on a tendance à régler ses comptes quand on est dans l'opposition. Si le Parti libéral n'avait pas été battu par Daniel Johnson en 66 au pouvoir, peut-être que tout ça ne serait pas brassé.
Alors ça ne serait pas brassé autant que ça, parce que y avait d'abord les tensions au sein des ministres avant les élections de 66 au sein du Parti libéral. Il y a le Sage qui fait de plus en plus figure seule. René Lévesque avait perdu ses richesses naturel, il était rendu aux affaires sociales. Paul Gérard Lajoie voulait absolument lui accélérer la démocratisation de l'enseignement. Il y avait l'attitude du clergé, des évêques face...
C'était toutes des têtes fortes.
C'était toutes des têtes fortes à ce moment-là. Et c'est normal que ces têtes-là n'acceptent pas un certain autoritarisme de Jean Lesage. Mais ce qui est intéressant de noter, que Daniel Johnson va être élu avec moins de pourcentage de vote que le Parti libéral. L'Union nationale va avoir 41% des votes et le Parti libéral va avoir 47% des votes. Et le soir des élections, et ça, ça nous montre un peu l'évolution du Québec dans un certain sens. Le soir des élections, Pierre Nadeau, à la télévision de Radio-Canada, dit à M. Johnson, vous êtes pas un peu mal à l'aise? Vous avez 41% des votes, les libéraux ont 47%, ils sont tous dans l'opposition et vous êtes au pouvoir. Et Johnson répond, mon cher ami, si j'enlève le vote des anglophones, si j'enlève le vote des juifs et le vote de l'argent, je suis majoritaire chez les Canadiens français.
C'est une phrase qu'on aurait entendue.
Et à ce moment-là, moi j'ai fouillé dans les journaux, il n'y a aucune réaction, il n'y a aucune contestation,
personne.
Aucune dénonciation.
Alors qu'on a lapidé Jacques Parizeau.
En 95, ça va être complètement le contraire.
Ouais, c'est étonnant. Dites-moi en terminant, Jacques Lacourcière, on pourrait poursuivre, mais c'est une décennie qui est extrêmement florissante. Est-ce que le fil conducteur de cette décennie-là pour le Québec, c'est la laïcisation?
En bonne partie, oui. C'est-à-dire que les laïcs, d'ailleurs, avec la fondation du mouvement Ligue de langue française en 1961, il y a déjà une affirmation. On va retrouver dans Cité libre des prises d'opposition où on va dénoncer l'autoritarisme du clergé. Donc, la laïcisation va se poursuivre avec dans le domaine de l'éducation. Faut pas oublier qu'en 1961, c'est l'assurance hospitalisation. À ce moment-là...
À Ottawa, pas à Québec?
Au Québec...
En 61?
Oui, en 61, c'est l'assurance de hospitalisation au Québec. Au Canada, ça avait été en 57.
Ah, oh, d'accord.
Et on aura par après l'assurance santé ou l'assurance maladie en 70-71. Donc, le fait qu'on crée l'assurance hospitalisation, ça va créer des changements dans le domaine hospitalier. On va avoir des administrateurs les religieuses qui étaient propriétaires de la plupart, de bon nombre d'hôpitaux, vont aller protester, même contre l'attitude de leurs propres évêques. Qui, eux, étaient favorables à l'assurance hospitalisation, alors que certaines religieuses vont même aller protester à Rome. Donc, laïcisation dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des services sociaux, ça avait commencé en 1921 avec l'assistance publique. Et aussi laïcisation dans un certain sens avec la baisse de la pratique religieuse.
Est-ce qu'en 70, selon la vision de l'historien, au Québec, on sait un peu plus qui on se tient un peu plus debout, ou on est encore secoué par le grand vent qui est passé, le grand tremblement qui est passé, puis on est un peu...
On n'a pas encore tout absorbé. Ben, en 1970, on est quand même sous le choc de la crise d'octobre.
Oui.
Bon. Et le Parti québécois va quand même avoir quelques problèmes à expliquer qu'il n'y a aucun lien entre lui et le FLQ. Donc, et dans le domaine, avec l'arrivée de Robert Bourassa, c'est l'économie qui va prendre la dominante, mm-hmm. qui va donner le plus important. Il ne faut pas oublier qu'il va faire sa campagne électorale avec les 100 000 emplois.
Mm-hmm. Le sixième tome de 70 jusqu'au référendum ou à la nuit des longs couteaux, ça dépendra où
ben,
vous déciderez d'arrêter.
Ben,
c'est pour quand?
Mon éditeur pense que ça va être dans 2 ans, mais peut-être dans 3 ans. Mais qu'importe, parce que c'est une période encore là qui est très riche. Et plus on avance dans le temps, plus la documentation est abondante. Et aussi, il y a toujours cette idée à savoir, cet événement-là que je veux retenir, est-ce qu'il va demeurer important? Est-ce qu'il va avoir encore de l'influence dans 5 ans, dans 10 ans, ou dans 20 ans, mm-hmm. ou dans 25 ans?
Jacques Lacourcière, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Ce survol d'une période extrêmement riche et extrêmement rebondissante au Québec.
Ah, pour moi, c'est une des plus belles périodes
merci.
Du 20e siècle.
Merci beaucoup.
Moi qui vous remercie.
Vous venez d'entendre « Vivant dans nos mémoires » avec Yves Houd à l'animation. Il rencontrait les historiens Michel Lessard et Jacques Lacourcière, décédés respectivement en 2022 et 2021.